Vous écoutez, on lit pour vous.
L'importance du leadership climatique au Canada. Un texte de Catherine Potvin et Damon Matthews, publié le 12 novembre 2025 dans Le Devoir. Alors que les politiques climatiques sont souvent décriées, nous ne pouvons rester silencieux. En tant qu'universitaires de tout le Canada, nous exhortons votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre Carney, à appuyer l'action climatique et à opter pour une économie sobre en carbone et résiliente. Nous devons continuer à travailler pour minimiser notre contribution au changement climatique et renforcer notre capacité d'adaptation et notre concurrence dans un monde en mutation. La Chine, l'Union européenne et de nombreux autres gouvernements intensifient leurs actions climatiques, déploient des technologies sobres en carbone et réduisent leurs émissions. Ici, au Canada, nous devons donc résister aux appels à un recul des politiques climatiques et aligner nos ambitions sur celles des pays qui se montrent progressistes. Les Canadiens sont confrontés à des pressions économiques sans précédent. Nous ressentons également les graves conséquences des changements climatiques, car l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provoque des vagues de chaleur, des feux de forêt et des inondations de plus en plus intenses. Ignorer et négliger les effets immédiats et à long terme des changements climatiques nuira davantage à nos communautés, à nos écosystèmes et à notre bien-être économique. Il y a 10 ans, nous avons formé les Dialogues pour un Canada vert, un regroupement d'universitaires de partout au Canada qui ont élaboré une feuille de route vers un Canada inclusif et sobre en carbone. Nombre de ces recommandations demeurent des priorités et pourraient faire progresser les politiques climatiques tout en tenant compte des priorités nationales actuelles. Grands projets d'infrastructure. Les infrastructures offrent de puissants moyens d'influencer les trajectoires climatiques, et le nouveau Bureau des grands projets du Canada pourrait servir à accélérer la transition du pays vers une économie sobre en carbone. En investissant dans les projets structurants que sont le transport d'électricité Est-Ouest, la production d'énergie renouvelable et les liaisons ferroviaires électriques interurbaines, le pays pourrait créer des emplois sobres en carbone et jeter les bases d'une prospérité à long terme. Les partenariats avec les communautés autochtones et les communautés locales peuvent favoriser la souveraineté autochtone et augmenter les avantages pour les communautés lors du développement de telles infrastructures. Coût de la vie. La hausse des coûts de l'énergie, du logement et des transports représente un défi majeur pour de nombreux Canadiens aujourd'hui. Dans ce contexte, des investissements stratégiques et une réglementation adéquate peuvent encourager les choix sobres en carbone et en réduire le coût, par exemple celui des thermopompes et autres rénovations éco-énergétiques, ou encore des modes de transport sobres en carbone comme le transport en commun, le transport actif et partagé et les véhicules électriques. La nouvelle agence Maison Canada devrait construire des logements à haut rendement énergétique et résilients au climat, qui réduisent la vulnérabilité aux extrêmes météorologiques et climatiques. Compétitivité économique. Une grande partie du reste du monde adopte des systèmes d'énergie et de transport à faibles émissions de carbone. Les échanges commerciaux avec l'Europe et l'Asie exigeront bientôt que nous répondions à leurs attentes élevées en matière de leadership environnemental et climatique. Pour demeurer compétitif économiquement dans un monde à faibles émissions de carbone, nous devons passer à une économie fondée sur des technologies diversifiées de production d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Les investissements dans l'électrification et les technologies d'énergie propre sont des moteurs clés d'une économie canadienne prospère. Leadership et partenariats autochtones. Plusieurs communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, sont à l'avant-garde de l'action climatique. elle possède une expertise profondément ancrée dans les connaissances régionales spécifiques, et nombre d'entre elles pilotent les mises en œuvre de solutions efficaces partout au Canada. Les efforts canadiens en matière de politique climatique bénéficieront de partenariats respectueux avec toutes les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui reconnaissent leurs droits distincts et leur important rôle de leadership et qui écoutent attentivement leurs solutions. Sécurité nationale. Les changements climatiques sont de plus en plus reconnus comme une menace à la sécurité nationale. L'agrandissement des étendues d'eau arctique libres de glace ouvre la perspective d'une intensification des revendications de souveraineté. Les investissements dans la sécurité nationale peuvent s'harmoniser avec l'action climatique afin de soutenir la stabilité des systèmes énergétiques du Nord. Par exemple, le développement d'infrastructures de valorisation énergétique des déchets ou d'énergie solaire améliorerait également la sécurité énergétique des communautés locales. Justice et équité. Les populations vulnérables et marginalisées subissent généralement les pires conséquences des changements climatiques, tandis que les plus riches d'entre nous portent la plus grande responsabilité de ces dommages. Pour favoriser l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, tout en améliorant la justice et l'équité, le Canada devrait soutenir le renforcement des capacités communautaires et les programmes de formation professionnelle appuyant des initiatives locales de décarbonisation et de résilience climatique. Nous demandons au Canada de réaffirmer son engagement à l'égard du climat. Il est temps de promouvoir l'action climatique comme élément essentiel d'une économie saine et d'un système social prospère. Un plan d'action climatique ambitieux et bien conçu n'est pas un coût pour les Canadiens. C'est une occasion d'innover et de jeter les bases d'un avenir meilleur pour toutes et tous. C'était « L'importance du leadership climatique au Canada ». Un texte de Catherine Potvin et Damon Matthews, publié le 12 novembre 2025 dans Le Devoir.
Les entreprises adaptées, un modèle rentable. Question à Stéphane Thériault, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165 de la revue Paraquad. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? Il s'agit d'un concept unique au Canada qui existe depuis 43 ans. Il est né de la volonté du gouvernement dans les années 80 de mettre en emploi une clientèle éloignée du marché du travail. Pour être homologuée, l'entreprise doit avoir pour mission première d'offrir un emploi à des travailleurs ayant des limitations fonctionnelles et 60 % de son personnel doit être composé de travailleurs étant reconnus comme ayant des limitations fonctionnelles. Le réseau des entreprises adaptées compte 35 entreprises réparties pratiquement sur l'ensemble du Québec, de Sept-Îles à Montréal, excepté dans les Laurentides. Ces entreprises embauchent 5 000 employés, dont 4 000 ont des limitations fonctionnelles. Le réseau est diversifié. Parmi les secteurs d'activité phares, nous comptons la sous-traitance manufacturière, l'entretien ménager, la récupération, avec 6 centres de tri, et la transformation du bois. Sur les 35 entreprises, ce sont 35 réalités différentes réparties sur 65 sites de travail qui vivent et s'adaptent aux aléas de la conjoncture économique. Rappelons que les entreprises adaptées sont des OBNL, ce qui ne les empêche pas d'avoir des objectifs de production et de rentabilité comme n'importe quelle entreprise. Est-ce que les entreprises adaptées ont été créées pour être un tremplin vers le marché du travail régulier? Les parcours que peuvent suivre les travailleurs sont tous différents. Il n'y a pas de parcours linéaire. Pour certains, les entreprises adaptées représenteront une première occasion d'emploi pour ensuite être un tremplin vers le marché régulier. Pour d'autres, elles seront un lieu d'emploi stable. S'insérer sur le marché régulier ne fonctionne pas toujours. L'entreprise adaptée a été créée pour accueillir le travailleur et s'adapter à ses limitations. L'emploi offert va viser à ce que le travailleur se sente bien, à la fois dans son esprit et dans son corps, notamment pour limiter les risques de blessures. Comment un travailleur est-il embauché dans une entreprise adaptée? Pour travailler dans une entreprise adaptée, l'employé doit être référé par un SSMO, un service spécialisé en main-d'œuvre. Avant ça, il peut avoir été identifié par un médecin de famille qui aura pensé qu'une entreprise adaptée pourrait convenir au type de limitation de son patient. Ensuite, un comité de ressources humaines entre le SSMO, Service Québec et l'entreprise adaptée se réunit et définit l'emploi qui correspondrait le mieux aux limitations et aux capacités de la personne. Est-ce que l'entreprise est en mesure de créer quelque chose ou est-ce qu'un médium de travail qui correspond à ses limitations existe déjà? Voilà les questions qui se posent. Une fois qu'il aura intégré l'entreprise, l'employé aura la possibilité d'améliorer son expérience et de croître au sein de la structure. Les entreprises adaptées sont généralement fondées par des personnes qui ont à cœur l'insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Ce sont toujours de beaux environnements propices au bien-être et où les gens sont souriants et heureux de travailler. À chaque fois que je me rends sur place, je ressens cette ambiance. Le rythme est ralenti. Là-bas, pas besoin de chercher un sens à ce qu'on fait. C'est un beau modèle. Parlez-nous un peu du Conseil québécois des entreprises adaptées. Il a été créé il y a 43 ans avec pour principe de s'occuper, à la place des entreprises membres, de tout ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire. Il faut savoir que les relations avec le gouvernement concernant les programmes de subvention prennent beaucoup de place. Dans un contexte où le financement du gouvernement est plus serré, nous tentons de rester proches de nos partenaires que sont le ministère de la Santé et de la Solidarité sociale et Service Québec. Nous nous assurons que les entreprises reçoivent tout ce dont elles ont besoin et nous les accompagnons dans leur mission. Nous avons une mutuelle pour nous assurer que les sites de travail sont sécuritaires. Notre mutuelle de formation s'assure, quant à elle, que du personnel qualifié soit présent pour superviser les travailleurs, que les outils soient à jour pour les accompagner et développer leur employabilité. Les entreprises adaptées sont très fortement impliquées dans le développement personnel de leurs employés, leur savoir-faire, leur savoir-être. Ce sont des entreprises où les travailleurs se sentent bien et où ils sont heureux. Ils ont souvent le sentiment que le travail est leur deuxième famille. Et il est important pour nous que ce sentiment demeure. Nous sommes également en charge de faire connaître les entreprises adaptées, notamment auprès des parents, pour que les jeunes ayant des limitations puissent se tourner vers ce type d'emploi s'ils le souhaitent. Nous informons aussi les travailleurs de la santé dans ce sens. Dans un contexte de budget serré, avez-vous entendu des annonces concernant les subventions aux entreprises adaptées? Pour le moment, rien n'a été annoncé. Sachant que le taux de chômage est en hausse constante, nous surveillons la situation de près, car nous savons que les travailleurs avec des limitations sont souvent les premiers écartés du marché de l'emploi régulier. Nous restons vigilants au niveau économique. Il est cependant important de souligner que les entreprises adaptées ont dû, par le passé et encore aujourd'hui, s'adapter à l'évolution constante du marché du travail. Nous avons connu un ralentissement économique depuis quelques années qui s'est stabilisé, mais nous savons que le monde du travail est en plein bouleversement. L'avènement de l'intelligence artificielle bouscule les façons de travailler, de même que la robotisation. Nous surveillons donc les activités traditionnelles, comme la sous-traitance manufacturière ou la couture industrielle, par exemple. Avec des travailleurs qui ont des limitations de plus en plus fortes, ce genre d'activité est moins adapté car elle nécessite de la motricité fine et de la mémoire. Les entreprises adaptées ont su se renouveler au fil des années, être proactives, créatives et ouvertes aux tendances. Certaines se sont, par exemple, tournées vers l'économie circulaire qui donne à un article une deuxième vie. Elles récupèrent des petits appareils réfrigérés, des climatiseurs. C'est un nouveau créneau qui marche bien. nous sommes fiers d'annoncer que le modèle des entreprises adaptées est un modèle rentable. Nous avons réalisé une étude l'an passé avec un économiste de l'Université de Sherbrooke qui nous a montré que ces entreprises font épargner de l'argent aux Québécois sur la santé, la justice. Vous dites que le modèle des entreprises adaptées est rentable. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Le fait de mettre un citoyen au travail retire une personne du programme d'aide sociale. Cela permet de sauver des coûts. Et ces personnes contribuent en payant des impôts. Au-delà de ça, elles deviennent des membres actifs de la société. Pour elles, travailler les valorise, leur permet de se développer, de gagner en autonomie. Tout le monde est gagnant. Le concept des entreprises adaptées est un concept qui fonctionne bien et j'espère qu'il restera encore dans l'écosystème 40 années supplémentaires. C'était « Les entreprises adaptées, un modèle rentable », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Le Canada pourrait-il parvenir à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040? Un texte de Gaëlle Lucia Aberdou, paru le 18 du 11e mois 2025 dans Ici Radio-Canada. Le Canada s'est donné comme cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040, un objectif qui repose en bonne partie sur une arme puissante, un vaccin. S'il y a un cancer qu'on est capable de ne plus avoir, c'est celui-là, estime l'hémato-oncologue Denis Soulière, porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer, SCC. Près de 1650 Canadiennes seront atteintes d'un cancer du col cette année et 430 en mourront, selon les plus récentes projections publiées par Statistique Canada et la SCC, des données qui stagnent selon cette dernière. Le cancer du col est quasiment toujours lié au virus du papillome humain, VPH. Or, le premier vaccin contre le VPH a été homologué il y a maintenant près de 20 ans. Vacciné, oui, mais au bon moment. Le Québec a lancé sa campagne de vaccination en 2008 en ciblant d'abord les jeunes filles à partir de la quatrième année du primaire. En 2016, la vaccination des garçons a été ajoutée au programme. C'est l'infection transmissible sexuellement la plus fréquente et contre laquelle les mesures barrières comme le condom ont une efficacité limitée, explique Chantal Sauvageau, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, qui est aussi membre du comité sur l'immunisation du Québec. C'est pourquoi il est important que ces vaccins soient donnés avant le début de l'activité sexuelle. Il existe des dizaines de types de VPH différents. La plupart de ces infections passent inaperçues, mais certains types peuvent causer des verrues génitales, aussi appelées condylomes, et d'autres, des cancers comme celui du col de l'utérus. Le premier vaccin protégeait contre quatre types de VPH. Celui qui est administré aujourd'hui en cible 9, deux responsables des condylomes et les sept principaux responsables de cancer. Comme ces maladies mettent du temps à se développer, les études sur la diminution des cancers attribuables à la vaccination sont relativement récentes. Par exemple, dans une analyse menée au Danemark auprès de plus de 850 000 femmes et publiée en 2021 dans le Journal of the National Cancer Institute, les auteurs ont conclu que les femmes vaccinées avant l'âge de 16 ans avaient 86 % moins de cancers du col de l'utérus que celles qui n'étaient pas vaccinées. Pour Chantal Sauvageau, qui a participé à l'implantation des campagnes de vaccination et suivi leurs effets depuis leur tout début, ces données confirment ce qu'elle attendait. On avait déjà, dans les premières études, une réduction de plus de 95 % des infections associées au type inclus dans les vaccins, rappelle-t-elle. Donc, si on n'a pas d'infection, on n'a pas de pré-cancer et on ne peut pas avoir de cancer. Mais on n'avait pas la donnée. Maintenant, c'est quand même agréable de voir trois ou quatre études qui montrent l'impact réel sur l'issue qu'on veut ultimement prévenir, à savoir le cancer. Un miracle. À la clinique de gynécologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, le quotidien de la docteure Marie-Hélène Méran fait foi de ce qu'on peut lire dans ses études. Récemment, une médecin résidente a insisté pour voir une patiente qui présentait des condylomes. J'ai réalisé qu'on était arrivé à un moment où des gynécologues en formation ne verront pas de condylomes, ou très peu, parce que chez les jeunes qui ont été vaccinés, on a essentiellement éradiqué les condylomes, raconte la spécialiste. De la même manière, chez ces plus jeunes patientes, la docteure Mérand détecte désormais beaucoup moins de cellules précancéreuses qui risquent de mener à un cancer. Devant un tel changement, la gynécologue, qui étudie les infections au VPH depuis près de 30 ans, parle de révolution. Elle hésite, puis se lance. Comme scientifique, on essaie de rester mesuré. Mais un vaccin peut prévenir le cancer, c'est un miracle, je trouve. Une citation de Dr Marie-Hélène Mérand, clinique de gynécologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vers l'élimination du cancer du col. Selon des experts, la prévention de ces cancers pourrait même mener à leur élimination d'ici une à deux décennies au Québec. Des projections faites par le groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liées aux maladies infectieuses que dirige Marc Brisson à l'Université Laval montrent que, si la tendance se maintient, le Québec pourrait être parmi les premiers à se débarrasser du cancer du col de l'utérus d'ici 10 à 15 ans. Il faut dire que le Québec est parmi les endroits où la couverture vaccinale est la plus élevée. Avec les dernières recommandations publiées l'an dernier par le Comité sur l'immunisation du Québec, qui suggère qu'une seule dose de vaccin confère une protection suffisante, la proportion de jeunes Québécois vaccinés atteint maintenant près de 90 %. Mais dans le reste du Canada, les taux de vaccination varient d'une province à l'autre. À l'échelle nationale, 84 % des enfants de 14 ans ont reçu au moins une dose. La couverture vaccinale est nettement moins élevée dans de nombreux pays, étant donné les inégalités incroyables, évoque M. Brisson. Par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, l'élimination arriverait d'ici la fin du siècle, illustre-t-il. L'importance du dépistage. Pour y parvenir, les inégalités à surmonter ne concernent pas que la vaccination. Les protections qui permettent d'espérer se débarrasser du cancer du col de l'utérus tablent aussi sur la détection précoce de ces cancers et sur l'accès au traitement quand il s'avère nécessaire. D'une part, ce ne sont pas tous les types de VPH qui sont protégés par les vaccins actuellement disponibles, puis on a des cohortes qui n'ont pas eu accès à la vaccination au meilleur moment de vacciner, soit avant l'activité sexuelle, rappelle Chantal Sauvageau. Par conséquent, le dépistage préventif du cancer du col reste primordial. Et à ce chapitre, les dernières statistiques sur le cancer au Canada ne montrent pas la tendance souhaitée. S'il y a une stagnation de l'incidence du cancer du col de l'utérus, c'est qu'il y a quelque chose dans tout cela qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, fait valoir le docteur Denis Soulière. Est-ce que nos mesures de dépistage sont suffisamment promues? Est-ce qu'elles sont suffisamment suivies? Est-ce qu'il y a une adhérence qui est adéquate pour faire en sorte qu'on ait l'inflexion qu'on devrait avoir pour le cancer du col? Par ailleurs, le test de dépistage traditionnel, le fameux test PAP, P-A-P, qui permet d'identifier des cellules anormales, est en voie d'être remplacé par une autre sorte de test, plus précis, qui détecte plutôt la signature génétique du virus. Un test PAP va manquer environ la moitié des précancers et des cancers, souligne la docteure Marie-Hélène Mérand, alors qu'avec le test VPH, on est au-dessus de 90 %. C'est un meilleur test qui va trouver plus de précancers et de cancers et qui va les trouver plus tôt. Au Canada, le test VPH est déjà entré dans les mœurs en Ontario et en Colombie-Britannique notamment. D'autres pays l'ont adopté il y a déjà plusieurs années, par exemple l'Australie en 2017. Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, offrent même aux femmes de faire le prélèvement elles-mêmes et de l'envoyer par la poste pour l'analyse. Au Québec, l'Institut national pour l'excellence en santé et en services sociaux, l'INESS, l'INES, a recommandé son adoption en dépistage primaire en 2022. Pourtant, il n'est toujours pas disponible dans toutes les régions. La majorité de Montréal, qui est quand même une grande proportion de la population du Québec, n'a pas accès aux tests VPH pour le dépistage, se désole Dr Mérand. C'est extrêmement frustrant. On n'a pas l'impression de donner les meilleurs soins possibles. Le VPH à l'origine d'autres cancers. Par ailleurs, le VPH n'est pas seulement responsable des cancers du col de l'utérus. On lui attribue aussi une part de responsabilité dans des cancers génitaux, comme ceux du vagin ou du pénis, mais aussi de l'anus et de la gorge. Or, l'incidence de ces cancers augmente. Par exemple, le taux d'incidence des cancers de la tête et du cou, qui inclut ceux de la gorge, a cru en moyenne de 0,5 par année entre 2004 et 2021 chez les hommes et de 0,4 par année chez les femmes. À peu près 80 à 90 % des cancers de l'oropharynx, gorge et bouche chez les hommes au Canada sont associés au VPH, souligne Denis Soulière, spécialisé dans ce type de cancer. Clairement, il y a des éléments épidémiques du cancer de l'oropharynx chez les hommes, ajoute-t-il. Ces cancers sont trois fois plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Steve Bondu l'a appris à ses dépens. À l'automne 2023, sa conjointe, Mélanie, remarque une bosse sur son cou pendant qu'elle lui taille la barbe. Je lui ai dit « On n'en fait pas de cas. Je suis un homme, je suis un peu orgueilleux », raconte ce camionneur de 56 ans établi à Lac-du-Cerf dans les Laurentides. M. Bondu s'est quand même décidé à consulter. Le diagnostic n'a pas tardé. Un cancer de la gorge lié au VPH. Je pensais que le VPH pouvait juste causer le cancer du col de l'utérus chez la femme. Je ne pensais jamais qu'un homme pouvait le contracter. Jamais, jamais, jamais. Une citation de Steve Bondu, traité pour un cancer de la gorge lié au VPH. L'étonnement de son patient n'a pas surpris la radio-oncologue Ouda Bahig, qui a traité Steve Bondu au CHUM. La grande majorité des patients que je vois ont des cancers de la gorge associés au VPH. Je vous dirais que c'est la routine de ma pratique. Ça me surprend toujours, mais effectivement, quasiment tous les patients qu'on rencontre sont surpris et n'avaient jamais entendu parler de ça avant. Les VPH ne discriminent pas. Ça circule autant chez les filles que chez les garçons. Tous les sexes, tous les genres. Dès qu'il y a de l'activité sexuelle, il peut y avoir des VPH, insiste Chantal Sauvageau. Comme les cancers de la gorge peuvent mettre plus longtemps à se développer que ceux du col de l'utérus, il faudra plus de temps avant que l'effet de la vaccination soit visible. Mais ça viendra, assurent les experts. Après des traitements pénibles qui ont finalement eu raison de sa maladie, Steve Bondu a levé le pied de son entreprise de camionnage. Aujourd'hui, il ne manque pas une occasion d'encourager d'autres parents à faire vacciner leurs enfants contre le VPH, comme il l'a fait récemment avec son fils de 13 ans, Charles Olivier. Ils ont trouvé un médicament contre le VPH chez l'homme et chez la femme, alors pourquoi ne pas le prendre? J'essaie d'aider le plus d'enfants possible à ne pas traverser ça, parce que c'est pas drôle. C'était le Canada pourrait-il parvenir à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040?